Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon.
Pauline Jaricot, une femme née après la Révolution en 1799, une femme que nous découvrons jour après jour avec vous, Catherine Masson, spécialiste de la bienheureuse Pauline Jaricot, béatifiée récemment à Lyon le 22 mai 2022. Bonjour Catherine Masson.
Bonjour.
Alors, je rappelle que vous êtes auteure de cette biographie que l'on peut se procurer, très accessible aux éditions du Cerf, Pauline Jaricot, laïque et sainte. Il y aurait tant et tant de choses à dire, vous qui êtes historienne, qui avez vraiment étudié, je dirais, le profil, le caractère, je dirais, l'apôtre, cette femme missionnaire, brûlante d'amour pour Jésus, brûlante aussi pour la mission et les œuvres. Revenons quelques minutes, si vous le voulez bien, parmi, je dirais, cette dimension de femme fondatrice avec la propagation de la foi, vous en avez parlé hier, le rosaire vivant. Il y a aussi cette autre fondation, cet épisode aussi, et je dirais tout le génie encore de Pauline Jaricot, fondatrice, avec l'idée de fonder une usine chrétienne, et c'est l'usine de Rustrel. On est un peu dans les années 1845 à peu près. Pauline Jaricot est une femme de 45 ans, donc la maturité spirituelle est là, maturité intérieure. Et puis Pauline Jaricot est une personne qui est reconnue encore à cette époque. Grande notoriété et puis une forme d'autorité. Alors, qu'est-ce qui se vit avec cette fondation et ce troisième épisode de sa vie, Catherine Masson ?
Alors, ce qui se vit à ce moment-là, c'est en fait un projet qu'elle mûrit depuis très longtemps. On a déjà vu qu'elle était très inquiète des ouvrières de son quartier. Elle s'est aussi beaucoup occupée, on n'a pas eu l'occasion de le dire, des ouvrières de l'usine de son beau-frère à Saint-Vallier, qui était aussi une usine de soierie. Et elle s'inquiète de ces ouvriers. Et elle veut faire quelque chose pour eux. Et elle se demande comment. Et donc, elle a une idée qu'elle va mûrir pendant des années, qu'elle va mûrir dans la prière. Pauline ne faisait jamais rien sans la prière. Comment on peut permettre à l'ouvrier, on est en pleine révolution industrielle à ce moment-là, hein, avec des conditions de travail qui sont très difficiles, le travail des femmes, le travail des enfants, des journées qui sont interminables, pas de vacances, la maladie, enfin on a tout ça. Et donc elle dit comment permettre à l'ouvrier de vivre sa vie de travail correctement, de vivre sa vie d'homme, de vivre sa vie d'époux, de vivre sa vie de père, hein, rendre l'homme à son travail, à sa femme, à sa vie de famille et à Dieu. Il y a ça aussi qu'elle cherche. Et donc, comment permettre ça? Et donc, elle réfléchit pendant des années et elle a une idée qui est ce qu'elle appelle l'usine chrétienne. Alors, c'est une idée qu'on n'aurait plus aujourd'hui, mais il faut l'entendre au 19e siècle. Et qui est de permettre à des ouvriers de vivre et de travailler dans des bonnes conditions, avec des bonnes conditions pour leur famille, pour leurs enfants. Il y a une chapelle, il y a une école, il y a tout ce qu'il faut autour de l'usine. Et son problème, c'est cette idée, qui est une idée qui sera reprise après par d'autres qui n'ont même pas connu les idées de Pauline à la fin du 19e siècle. Cette idée, pour pouvoir la réaliser, il faut une usine. Et Pauline, elle a de l'argent, elle a l'idée, mais elle n'a pas l'usine. Jusqu'à ce que deux escrocs, on va le dire d'emblée, se découvrent ce qu'ils peuvent faire avec cette idée, vont la manipuler, la circonvenir. Elle ne se rendra pas compte, mais on l'a accusée d'imprudence, Pauline, à un moment. Mais en fait, non, elle a pris toutes les précautions, elle s'est renseignée, y compris sur ces messieurs très bien. Il y en a un qui avait fait de la prison, donc justement, elle s'est renseignée dessus. Et puis on lui a dit, un ecclésiastique lui a dit, j'en réponds. Et un autre était un des grands animateurs des œuvres du Rosaire. Ils vont complètement la manipuler. Ils vont lui trouver l'usine, à Rustrel, dans le Var, une usine des hauts fourneaux. Ils vont lui faire donner son argent et ils vont tout lui prendre.
Donc,
et
en moins d'un an, ces deux escrocs manipulateurs ont profité de cette générosité et au fond de l'inexpérience de Pauline Jaricot.
De l'inexpérience en matière d'affaires, sans doute, mais elle le savait. Et donc, elle se confiait à d'autres et elle demandait à être aidée. Et là, elle croit qu'elle est aidée.
Alors, vous me disiez que cet épisode, très précisément, de ces deux manipulateurs escrocs, ont retardé le procès de béatification de Pauline Jaricot.
Oui, parce qu'on l'a... pour être béatifié, sainte, il faut être prudent. Et on l'a taxé d'imprudence.
Alors que vous relatez des événements qui nous montrent que Pauline Jaricot
a été prudente.
Elle a vérifié l'information.
Elle a vérifié les informations. Elle s'est renseignée, etc. Mais vraiment là, elle est tombée sur deux personnages horribles, quoi, qui vont continuer d'ailleurs après, parce qu'il va y avoir... Il va y avoir des tas de procès après. Parce que justement, en quelques mois, on découvre que l'usine n'a même pas été achetée. Et puis finalement, elle sera vendue à Folenchère quelques années après, en 1852. Elle a tout perdu. Et son problème, c'est que des gens qui lui faisaient confiance, parce qu'on a vu sa notoriété, vont abonder dans le projet. Alors, les deux escrocs, entre autres, ils vont s'arranger pour n'avoir que le moins possible de gens qui ont beaucoup d'argent, qui ont des conseils derrière eux, etc., pour pouvoir continuer justement à la circonvenir et à la manipuler sans qu'elle ait des conseils ailleurs. Mais il y a plein de gens qui ont prêté de l'argent. Et quand elle aura tout perdu, elle voudra les rembourser. Et ça va être le drame de sa vie.
Elle va terminer ruinée.
Elle termine ruinée, elle termine inscrite sur le rôle des indigents de sa paroisse, et elle n'arrivera jamais, pour d'autres circonstances qu'on va peut-être évoquer, elle va rembourser une partie, parce qu'on dit qu'elle n'a pas remboursé,
elle veut rembourser. Pourquoi c'est si important pour Pauline Jaricot de rembourser?
Parce qu'on lui a fait confiance, et elle veut honorer la confiance. Et
elle veut réparer.
Elle veut réparer, oui, on peut le dire. Et puis, les gens qui lui ont donné de l'argent n'en avaient pas nécessairement beaucoup. Des gens lui ont donné leurs petites économies. Il y a des gens qui ont donné des grosses sommes, qui avaient des hypothèques, etc. Et là, bon, ceux-là, ils craignaient pas grand-chose pour leur propre fortune. Mais tous ceux qui ont donné sur leurs petites économies, elle veut réparer. Et c'est cuisant comme échec.
Alors comment elle vit profondément, je dirais intérieurement, cet échec où elle vit aussi une terrible trahison?
Alors, elle vit une terrible trahison, ça c'est difficile. Et en même temps, elle va vivre cet échec et les difficultés qui vont s'en suivre, parce qu'elle va essayer de récupérer l'argent et elle va rencontrer plein d'obstacles. Mais elle vit cela à l'aune peut-être de ce qu'elle a offert dès l'âge de 17 ans. Quand elle entend Jésus, elle est à Saint-Nizier, devant le Saint-Sacrement, où elle est au pied de la croix, et elle entend Jésus qui lui dit « Veux-tu souffrir et mourir avec moi ?» Et elle fait le sacrifice de sa vie, sans savoir ce que sera sa vie. Elle a ce mot qui revient souvent sous sa plume, qu'elle s'offre en victime, et persuadée qu'elle aura à souffrir le martyr. Alors, elle vivra pas le martyr de sang, mais elle va vivre une autre forme de martyr. On a déjà vu que sa vie était très souffrante dans la maladie, elle est plusieurs fois mourante, elle va être guérie miraculeusement lors d'un pèlerinage à Sainte-Philomène dans le sud de l'Italie. Elle offre sa vie au moment des événements révolutionnaire des années 1830 à Lyon, où elle manque de mourir dans sa maison qui est bombardée. Elle offre sa vie, elle n'aura pas le martyr de sang, mais elle va avoir cette espèce de martyr des 15 dernières années de sa vie, lorsque, essayant de retrouver de l'argent pour pouvoir payer des dettes, je signale, parce qu'on dit quelquefois qu'elle a fait faillite, elle n'a pas fait faillite, il n'y a eu aucune malversation de sa part, on lui a pris son argent et elle veut rembourser ceux qui lui ont prêter pour abonder dans ce qu'elle-même elle avait donné. Et le conseil de la propagation de la foi que l'on a évoqué tout à l'heure, qui est donc son œuvre, mais on a oublié qu'elle était la fondatrice, lorsque le Monseigneur Villecourt lui conseille revendiquer ces deux œuvres en disant « Mais Pauline, vous êtes une fondatrice, il suffit que tous ces gens qui prient le rosaire, qui donnent leurs sous à la propagation de la foi, vous donnent quelques sous et vos dettes sont payées. » Et le conseil de la propagation de la foi dit « Non, c'est une de bonne foi pour la plupart des gens, parce que le temps a passé, il ne faut pas l'oublier, nous on voit ça en très peu de temps, mais le temps a passé, on oublie le rôle qu'elle a joué, elle s'est laissée oublier, on dit « Non, c'est une usurpatrice. » Et elle va sillonner la France avec Julia Morin. On va même sillonner l'Europe. On va aller en Angleterre, on va aller en Belgique, on va aller ailleurs. Elle est toujours malade, elle a des jambes épouvantables. Elle voyage dans des conditions épouvantables. Et lorsque, par exemple, quelque part, des gens du Rosaire Vivant se réunissent en disant comment on va faire pour faire une souscription pour Pauline Jaricot, eh bien, on voit arriver un ecclésiastique ou quelqu'un de la propagation de la foi qui dit non, surtout pas, usurpatrice. Elle n'est pas fondatrice et la plupart des quêtes échouent. Alors tout n'échoue pas, parce qu'on se rend compte quand même qu'il y a eu quelques remboursements, qu'il y a toujours des gens qui lui font des dons. Mais la vie va devenir très difficile pour elle. À Lorette, ils savent même plus se chauffer, ils ont plus de quoi manger. La vie est épouvantable et toujours malade, parce que ne l'oublions pas, elle vit aussi cette maladie en permanence. Elle est plusieurs fois mourante, on l'a vu guérie. Et donc, elle a une espèce sorte de calvaire qu'elle vit toute sa vie, mais toujours dans la confiance. Et moi, j'aime bien rappeler cette prière de Pauline qui lui a été inspirée, si j'ai bien compris, par un de ses confesseurs, qui lui dit « demander, remercier et attendre ». Et vous voyez la place de remercier, c'est-à-dire qu'elle demande, elle est dans la prière de demande, elle est dans la prière d'action de grâce. Tous ses écrits sont écrits sous une forme d'action de grâce. Donc elle est dans la demande, elle est dans l'action de grâce et elle attend, c'est-à-dire qu'elle espère quelque part, demander, remercier et espérer. Et elle n'a jamais désespéré. Et elle n'a jamais non plus renoncé à croire en l'Église. Parce qu'elle ne lui a pas fait de cadeau, l'Église. On va peut-être y revenir.
On y revient demain. Catherine Masson, merci de nous faire connaître ce portrait. Portrait, c'est une... On parle d'une femme toute la semaine. Portrait d'une femme laïque, sainte, bien engagée, et une femme qui a connu cet état un peu de martyr, martyr du cœur. Elle a connu l'épreuve, elle a connu aussi l'épreuve de la maladie, et elle connaîtra ses dernières années de vie aussi dans la douleur, mais toujours aussi, au fond, dans le remerciement et dans l'offrande. De Pauline Jaricot, on peut entendre une femme pour aujourd'hui, jamais dans la plainte.
Ah non.
Catherine Masson, auteure de ce livre que je conseille pour découvrir cette vie, Pauline Jaricot, laïque et sainte, aux éditions du Cerf. Rendez-vous demain à la même heure. Et merci.
À demain.